Début du livre, qui est arrivé au bout de sa vie, puisque ce livre est construit sous forme de plusieurs de sept vies. Il est arrivé au bout de sa vie, et pour moi, je pense que c'est vraiment presque au sens propre. Je crois qu'il n'a plus envie de vivre. Donc, il a 15 ans. C'est un enfant qui est d'origine, qui est métisse, qui est donc d'origine polynésienne par son papa. Il a d'immenses difficultés scolaires. Il est très malheureux. Il porte sur lui énormément de culpabilité. Donc, la culpabilité de ne pas y arriver à l'école, d'être en décrochage. La culpabilité de quelque chose de terrible qui est arrivé à son papa, la culpabilité aussi de la mort de sa grand-mère, puisque ça arrive dès les premiers chapitres, donc je ne divulgage rien en vous disant qu'il perd sa grand-mère. Donc il porte toutes ces culpabilités-là, il est à terre, et dans ce livre, il se relève. Quand j'ai écrit le livre, j'avais cette phrase-là en tête, c'est l'histoire d'un garçon qui est à terre et qui se relève. Alors maintenant, comment il est venu le personnage ? En fait, je ne sais pas. Les personnages de romans, en tout cas dans cette expérience d'écriture que j'ai, ils arrivent un peu comme des enfants arrivent, et moi je les découvre. Et donc ce personnage d'Ismaël, je l'ai découvert en écrivant, et je ne l'ai pas pensé avant. La seule chose que je savais de ce personnage, c'est que ce serait un garçon, alors pourquoi j'en sais rien, en fait il est venu comme ça, c'est venu comme un garçon, mais je me souviens que dans les, alors vous ne l'avez pas encore lu encore hein, le livre, donc vous verrez, dans le chapitre, je crois que c'est le chapitre 5 ou le chapitre 6, Ismaël est assis à côté de sa sœur, ils viennent de perdre leur mamie, et en fait sa sœur prend, alors il a des dreads, et c'est un garçon qui est très grand et qui est en surpoids et qui souffre, qui est très très mal dans son corps, voilà, dans ce grand corps massif de garçon en surpoids. Et en fait sa sœur Juliette attrape une de ses dreads et l'enroule autour de son doigt, et elle l'appelle sa dread de Jumbo parce que ça fait référence aux oreilles d'éléphant. Donc elle enroule cette dread, et moi j'étais en train d'écrire cette scène, et je me souviens, mes doigts essayaient d'aller aussi vite que ce qui arrivait, puisque le personnage arrive, et je me revois en train de m'arrêter d'écrire en me disant « Tiens, il a des dreads ». C'est-à-dire que je découvrais le personnage, vraiment. C'est pas un mythe, en fait. Je l'ai découvert. Voilà. Je sais pas si je réponds à ta question.
Combien de temps cela vous a pris d'écrire ce livre ?
Ça, c'est une sacrée question. Ce livre, je pense que je l'ai écrit 4 fois. Il y a eu donc 3 premières phases d'écriture. Je l'ai commencé. Alors, je l'ai écrit très vite. Tu verras. Je l'ai commencé en février 2021. J'ai fait mes 3 phases d'écriture. Et ça m'a emmené jusqu'en novembre 2021. Et là, je l'ai envoyé aux éditeurs. Mais entre-temps, donc, je l'ai écrit 3 fois. Voilà. En ajoutant à chaque fois, je reprenais pas depuis le début, mais en le retravaillant sur 3 phases d'écriture. Et quand, un an après, ce livre a été repéré par l'éditrice de chez Sarbacane, ça c'est encore une autre aventure, elle m'a demandé de faire tellement de modifications sur ce livre que, en fait, je l'ai réécrit. Voilà, donc 4 fois. Et là, je suis entrée dans une nouvelle phase de travail, donc 8 mois d'un côté, pour cette première phase, on va dire. Et ensuite, donc, j'ai travaillé de mars à décembre. Donc, vous faites le calcul, ça doit faire à peu près 8-9 fois encore. Donc, ce qui n'est pas beaucoup pour un livre, parce que ça peut être très très long d'écrire un roman. Mais j'ai énormément travaillé, par contre.
Était-ce dur de trouver une maison d'édition ?
Oh là là ! Alors ça, c'est un vrai parcours du combattant. Vous connaissez un petit peu le milieu de l'édition, vous savez un peu comment ça marche. Ça a été, alors je vais vous dire, j'ai eu énormément de chance. Ça a été à la fois extrêmement facile et extrêmement difficile. Alors je vais vous raconter, c'est une histoire. On pourrait écrire un livre là-dessus. Donc en fait, ce livre-là, alors j'ai fait comme les jeunes auteurs, parce que je suis une jeune autrice, c'est mon premier livre. Donc moi, j'ai fait comme les jeunes auteurs, tout fier d'être arrivé au bout d'un livre. J'ai choisi les meilleures maisons d'édition. Donc je l'ai envoyé chez Gallimard Jeunesse. Je l'ai envoyé à 5 éditeurs. Et puis je voulais que ça ne me coûte pas trop trop cher. Donc j'avais choisi des maisons d'édition qui acceptaient des formats numériques. Ce qui m'évitait d'avoir à imprimer, à envoyer, parce que ça a un coût quand même. Donc j'avais envoyé donc à Gallimard, je ne sais plus à qui, en fait, l'école des loisirs évidemment. Et au milieu, il y avait Sarbacane, qui était une maison d'édition que je ne connaissais pas, mais j'avais fait quand même quelques recherches et j'avais l'impression que c'était une maison plutôt sympa. Et c'est vrai que chaque fois que je voyais cette maison d'édition, il y avait un truc comme ça, ça vibrait, je sentais quelque chose. Donc je l'envoie à Sarbacane en novembre 2021. En février, j'étais en train de corriger des copies. Je suis prof de français aussi. En février, je reçois un mail de Sarbacane, et là je me dis, oh zut, parce que dans mon imaginaire, quand un éditeur voulait publier un livre, il appelait l'auteur. Dans ma tête, c'était comme ça, quoi. On appelait un auteur. Donc là, voyant le mail, je me suis dit, zut, c'est ma première réponse, et c'est une réponse négative. J'ouvre le mail, et là, je reçois un texte que je connais quasiment par cœur, où on me dit que le livre est génial, que c'est un récit prometteur, que... Moi, je me dis, mais c'est incroyable. Première réponse d'éditeur à un message comme ça. Et le message se terminait par une petite phrase anodine où on me disait, c'était en fait une lectrice de chez Sarbacane qui me disait, je fais remonter un avis enthousiaste à notre éditrice, mais à ce stade-là, rien n'est joué. Mais moi, je n'en revenais pas. Et à ce moment-là, je crois que ce mail-là, on l'a fêté encore plus qu'on a fêté le livre quand il a vraiment... Ça a été dingue, incroyable. Le lendemain, je reçois un message de l'éditrice me disant « On m'a dit beaucoup de bien de votre travail, je le lis et je reviens vers vous dans 3 semaines. » Alors moi, j'ai vécu pendant 3 semaines avec mon portable scotché. Je le regardais 20 fois par jour en me disant « C'est pour aujourd'hui. » Les 3 semaines sont passées, 4, 5, 6... 7, vous savez compter jusqu'à 12, j'ai attendu un an. Voilà. Avec des relances, hein, bien sûr, j'ai fait des relances, un an, jour pour jour. Voilà, entre-temps, bon, l'éditrice, alors c'est un petit peu compliqué, hein, était partie en congé maternité, et en fait, mon projet s'est perdu. Ils ont perdu mon projet, en fait, ils l'ont oublié, parce qu'en fait, une publication, c'est très difficile, c'est un livre contre 1000, en général. Un livre d'inconnu, puisque moi je suis une inconnue, en général sur 1000 ils en prennent un. Habituellement, hein, le ratio c'est ça. Chez Sarbacane, l'éditrice Julia Thévenot m'avait dit 1 sur 600. Voilà. Donc forcément, elle, quand elle est revenue, elle avait peut-être 599 autres projets très intéressants qui l'attendaient et ils avaient oublié mon livre. Et pour faire court, parce que à un moment, j'ai fait une relance. Et ce jour-là, elle a ouvert sa boîte mail, elle a lu mon mail, elle s'est souvenue de moi. Elle s'est dit, mais c'est vrai, vous faites ce projet. Et elle l'a fait relire par sa nouvelle collaboratrice, qui a eu un coup de cœur absolu. Et là, hop, on est entré dans un nouveau cycle où elle m'a réécrit un message. Je reviens vers vous dans 3 semaines. Et elle est revenue 2 jours plus tard. Voilà, enthousiaste. Donc c'est une drôle d'aventure. Mais par contre, je me suis accrochée, c'est-à-dire que je les ai relancés, j'ai rien lâché. J'ai rien lâché parce que je recevais des réponses négatives des autres éditeurs. Et j'avais bien conscience que ça tenait à un fil, une publication. Et les éditeurs, les autres qui me répondaient, Gallimard, l'École des loisirs, qui m'avaient écrit un message formidable, Actes Sud Jeunesse aussi, c'était des éditeurs qui avaient été très intéressés par le projet et qui le refusaient pour... leur raison d'éditeur. Et donc là, j'ai compris que ça serait pas facile. Voilà.
Pourquoi avez-vous choisi que l'histoire se déroule à Lyon ?
Parce que j'ai fait mes études à Lyon. Voilà. Et que Lyon, c'est la capitale de la gastronomie. Et que ce livre-là se passe quand même essentiellement dans un bouchon lyonnais, donc dans un restaurant, hein, puisque le livre croise deux univers, trois univers. La gastronomie, le graphe, et il y a beaucoup de Polynésie aussi dans ce livre-là, puisque Ismaël est d'origine polynésienne. Donc c'était évident. Et puis Lyon, ça se passe dans le quartier de la Croix-Rousse, vous verrez si vous le lisez, et je trouve que ce quartier-là, le cadre est romanesque déjà, parce que c'est un quartier assez particulier, avec ses escaliers, ses traboules, etc. Donc pour moi, c'était évident. Je suis professeure de français, donc mon métier c'est d'être professeure de français, et dans certains salons, quand on me demande, en fait, je me présente toujours comme ça, je dis je suis une professeure de français qui a écrit un livre, et je pense que je deviendrai vraiment autrice quand j'arriverai au bout du deuxième, parce que le vrai enjeu, il est moins sur le premier, qui peut être quelque chose d'un peu léger quand on se lance dans l'aventure. Moi, quand j'ai commencé à écrire Ismaël, je n'imaginais pas que ce livre pourrait déjà être publié par une belle maison d'édition, qu'il pourrait recevoir des prix littéraires, que je pourrais ensuite vivre des moments comme celui que nous sommes en train de partager. Donc c'est très léger, en fait, on n'a pas d'enjeu, c'est une aventure. Alors que le deuxième, on a mordu à l'hameçon, et là il y a un vrai enjeu qui est différent. Voilà. Donc je suis professeure de français. Mais j'espère devenir un jour autrice.
Est-ce vous qui avez fait la couverture ?
Non.
Alors non, la couverture dans une maison d'édition, donc il y a plusieurs métiers dans l'édition et un des métiers, c'est le métier de graphiste. Donc la personne qui a fait cette couverture s'appelle Morgan Flodrops. Elle fait des couvertures formidables, magnifiques. Et alors c'est très curieux parce que on nous propose une couverture. Moi, le jour où mon éditrice m'a dit « Voilà, ça y est, la couverture est faite », je n'en revenais pas. Voilà. Et voilà, donc je n'en revenais pas et on m'a proposé, on m'a montré différentes formes de couverture. Et on m'a demandé mon avis. Et est-ce que vous voulez que je vous le donne ? Voilà, alors dans un premier temps, je le dis maintenant, j'ose le dire parce que j'adore cette couverture, je l'ai détesté la couverture. Ça a été un psychodrame cette couverture. Pourquoi ? Parce que je la recevais sur mon ordinateur, sur mon téléphone portable, et que mon téléphone avait modifié les couleurs. C'est-à-dire que les couleurs modifiées par mon téléphone ne me plaisaient pas. C'était vraiment pas beau du tout. Et en plus, ce n'était pas mon univers de couleurs à moi. Ce qui est le cas d'ailleurs. Ce n'est pas forcément mon univers de couleurs. Donc. Ça a été un long combat, on s'est un peu crêpé le chignon à ce moment-là avec l'éditrice. Moi, j'ai demandé, alors on a le choix, l'auteur a le droit bien sûr de donner son avis et de faire des propositions. Donc moi, j'ai fait en proposition, par exemple, parce que je suis professeur de français et je sais que les professeurs de français travaillent beaucoup avec leurs élèves, vous allez me le confirmer si c'est comme ça pour vous, on travaille souvent sur la couverture. Et sur ce que la couverture dit du livre et ce qu'elle crée comme attente de lecture. Or moi, je voulais quand même qu'il y ait une référence à la Polynésie par cette fleur d'hibiscus. Donc moi j'avais demandé qu'on rajoute une fleur d'hibiscus et j'avais demandé qu'on rajoute du vert parce qu'à un moment dans le livre il y a un gâteau à la pistache. Voilà. Et donc j'avais demandé un vert pistache. Et moi, le vert pistache, pour moi, c'était un vert plutôt éclatant. Et quand j'ai vu arriver ce vert-là, qui est un vrai vert pistache, j'ai fait oups. Voilà. Et mais par contre, quand j'ai découvert, et à un moment, j'ai fini par lâcher prise en me disant, c'est leur métier, ils savent ce qu'ils font. Fais-leur confiance. Et en fait, quand j'ai vu arriver la couverture, ça a été un coup de cœur pour cette couverture. Et j'ai découvert qu'en fait, les couleurs de la vraie couverture étaient complètement différentes des couleurs de ce qu'on m'envoyait sur mon ordi et sur mon téléphone. Voilà, donc ça, c'est un petit peu amusant. Moi, ce que j'adore dans la couverture, alors, j'adore le motif, j'adore le foisonnement, j'adore l'idée là, de la coupe là, qu'on soulève et cette espèce d'explosion de vie. Et j'adore la couleur du fond. Ça vous fait penser à quoi, vous, le fond de la couverture? Ouais, on a l'idée du soir et pour moi on a l'idée de la crème parce que c'est un livre quand même dans lequel il est question beaucoup de nourriture et pour moi ça c'est une génoise en fait, ça a la couleur d'une génoise donc c'est tout à fait cohérent. Non, elle a fait un très beau travail Morgane et je la remercie.
Pouvez-vous nous décrire les éléments qui composent cette couverture et nous expliquer leur importance dans le roman ?
Ouais, alors je vous ai parlé déjà de la fleur d'hibiscus, d'accord ? Et c'est moi qui vais parler, mais je brûle de vous interroger, vous. Là, qu'est-ce que vous voyez, là ? Vous arrivez à comprendre ce que c'est, ça ? Voilà, on a les bombes de peinture, puisque là, on a l'univers du graphe. Donc là, on a un gâteau qui est très important dans le livre, d'accord ? Là, ça fait référence à quoi ? Donc la petite cocotte qu'on voit, c'est facile, ça fait référence à la cuisine. Vous avez plusieurs éléments qui renvoient à la cuisine. Et en arrière-plan, vous avez la ville, parce que c'est quand même un livre qui s'inscrit dans un univers urbain. Et comme dans ce livre, il y a des graffeurs, vous avez des échafaudages, etc. Voyez ? Et en fait, ce qui est très intéressant dans sa couverture, si vous voulez, dans mon livre, il y a deux thématiques dominantes. Vous avez la cuisine et vous avez le graphe. Alors, on parlera peut-être du graffiti tout à l'heure. Vous allez peut-être sur ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre-là. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je ne voulais pas que le graphe soit la thématique centrale du livre. Et je ne voulais pas que mon héros soit un héros graffeur. Parce que le graphe, c'est quelque chose de dangereux, d'illégal. Et en même temps, ça a quelque chose de très romanesque. Donc, je suis entrée dans ce roman par la thématique du graphe, parce que je voulais écrire sur le graphe, mais par contre, je ne voulais pas donner envie de graffer. Donc, c'est devenu une thématique secondaire. Et ça, je l'avais vraiment dit à l'éditrice. Je lui avais demandé si on était vraiment d'accord là-dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, sur la couverture, vous voyez, c'est vraiment en arrière-plan, le graffiti. Voilà. Donc, tout a un sens. Hein. Tout a un sens dans une couverture, bien sûr. Oui. Alors, pour moi, c'est extraordinaire. Je n'ai pas imaginé une minute que cette aventure m'emmènerait là. Alors, le livre, il est en sélection actuellement pour 15 prix littéraires. Et alors, c'est très impressionnant. Hein, moi, ça m'impressionne comme toi. Après, en littérature jeunesse, il y a énormément de prix littéraires. Donc, un livre qui marche bien peut cumuler jusqu'à, je sais pas, 30 sélections, peut-être parfois plus. 15, c'est chouette déjà. C'est déjà un beau bonus pour moi. Et sur ces 15 sélections, donc le livre a pour l'instant obtenu 4 prix littéraires, dont 2 qui me sont chers. Enfin, ils me sont tous chers, mais le premier, c'est un prix que vous connaissez peut-être, qui est le prix Luciole. Qu'est-ce que c'est Luciole ? Vous connaissez Luciole ? C'est une des librairies de Vienne. Donc, il a été en sélection pour le prix Luciole Junior et il a été lauréat. Et je suis très, très fière de ce prix-là parce que d'abord, j'adore cette librairie. J'adore leur travail et j'adore le mot Luciole. J'aime me dire, pour moi, c'est un mot très poétique. Donc, pour moi, me dire mon livre est prix Luciole, ça évoque tout un tas d'images très poétiques et très philosophiques aussi. Le prix Luciole est un autre très beau prix que j'ai reçu il y a 15 jours, qui est un prix franco-allemand de littérature jeunesse. Qui est un très joli prix international et voilà, je suis très heureuse de l'avoir reçu. Et là, vous connaissez peut-être, mais le prix est en sélection pour un très beau prix littéraire national qui est le prix des Incorruptibles, qui est un prix de collégiens. Donc ce sont, qui est un prix de scolaire. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui donnent le prix. Donc si le livre est primé, ce ne sont pas des journalistes ou des métiers du livre, ce sont vraiment des jeunes qui le priment le livre. Et ça, pour moi, ça a beaucoup, beaucoup de sens, que ce soit des jeunes qui le plébiscitent. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important à mes yeux. Ah ah ! Alors, est-ce que je donne la parole à mon ami Bénédicte qui est à côté de moi ? Je suis en train d'en écrire un deuxième. Mais ce deuxième livre, il est très, 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 très compliqué à écrire pour moi parce qu'un deuxième livre, c'est difficile. Et ce deuxième livre, vous savez, quand je l'ai commencé, devinez. Quelle année ? 2022, bravo. En fait, plus précisément, je l'ai commencé le dernier jour de l'année 2021. Alors, ce livre, je l'ai écrit en 2021. Je l'ai envoyé aux éditeurs en novembre 2021. Et je m'étais dit, je vais me reposer. Et en fait, en décembre, ça me titillait, ça me tiraillait. Et il se trouve que j'avais entendu la première page de mon deuxième livre. Alors que je marchais dans les rues de Nantes où je m'étais enfermée tout un été pour terminer celui-ci. Et j'ai entendu la première page du deuxième. Et là, par superstition, je me suis dit non, je commence pas quelque chose parce que j'avais peur de ne pas le finir, lui. Je ne savais pas. Vous voyez, je pouvais pas deviner à l'avance ce que ça allait être. Et donc, j'ai laissé passer cette page-là. Et quand j'ai eu terminé avec ce livre-là, j'ai fait une sorte de baby blues. Vous savez ce que c'est, le baby blues ? C'est le petit moment dépressif qu'ont certaines mamans quand elles viennent de mettre au monde leur enfant. Voilà. Et moi, j'ai eu un petit passage de petit baby blues, de dépression. Et j'ai eu besoin, à un moment, je n'ai pas pu attendre de me reposer. Et dès le mois de décembre, j'ai commencé à écrire le deuxième. Donc, décembre 2021... Là, on est en novembre 2025, vous voyez ce que je veux dire ? Bon.
Pour conclure cette interview, pouvez-vous en 3 mots convaincre les élèves du collège de lire votre roman ?
Oh là là ! Alors, en 3 mots, vous avez compris que je vais avoir du mal, hein, d'accord ? Je suis pas... Alors, voilà une vraie question piège. Celle à laquelle je ne sais pas répondre. Alors, comment je pourrais convaincre des élèves de lire mon livre ? Alors, je pense que c'est un livre... Alors, il y aura plus de 3 mots. Hein. 3 phrases. Vous m'autorisez 3 phrases ? Charlie, tu m'autorises 3 phrases ? Bon, alors, phrase numéro 1. J'ai le droit de faire une phrase très longue, hein, d'accord ? Avec de nombreuses propositions. Bon, alors, phrase numéro 1. Je pense que c'est un livre qui fait du bien. Et qui donne envie de croire en soi. Pourquoi ? Parce qu'Ismaël, c'est vraiment un garçon qui est à terre et je pense qu'il a envie de mourir. D'ailleurs, si vous lisez ce livre, vous verrez la première vie, elle est très triste. Il faut s'accrocher, hein. Elle n'est pas facile. Elle est très triste. Et ce personnage-là se relève. Et il se relève pourquoi ? Parce qu'il va faire des rencontres. Tiens, en voilà un des mots. D'accord ? Être à terre, se relever... faire des rencontres qui sauvent, être capable de voir que des mains se tendent, ce qui n'est pas toujours facile. Quand on est plongé dans le désespoir, on ne les voit pas, les mains qui se tendent. Et Ismaël a eu de la chance parce qu'il les a vues. Et c'est un livre, en fait, qui montre qu'on peut réussir d'une autre manière que la réussite scolaire aussi. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle interview.
Merci beaucoup pour ce temps accordé et bon salon.
Merci et belle route à vous.